Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée jusqu'à maintenant et puis que ça va durer bien sûr. Nous sommes le jeudi 14 octobre 2021 et il fait beau dans le Beaujolais, on profite d'un ciel radieux. Bon, il fait un petit peu frais, il faut bien l'avouer, les températures montent autour de 14 degrés cet après-midi. Au programme de notre émission du jour, des idées de jeux de société avec l'équipe du Lorana et puis du blues pour terminer l'heure avec le traditionnel blues du jeudi. Mais avant ça, eh bien, on reçoit notre invité du jour avec nous en studio, Florian Tanner, pour nous présenter AssoCoab, une association dont l'objectif est la cohabitation entre les activités humaines et la vie sauvage. Il travaille en priorité sur le suivi des grands carnivores sauvages. On pense donc bien sûr au loup, vous savez, la méchante bête des contes de fées qui a presque disparu du territoire français à force de le décrire en monstre assoiffé de sang. Mais il y en a d'autres, des carnivores sauvages qu'on ne connaît pas forcément mieux. Et du côté des activités humaines, eh ben, on parle de pastoralisme et donc d'élevage agricole. Et de ce que je sais, eh ben, les loups et les bergers, ça ne s'entend pas forcément très bien. Et pourtant, l'association a pour but de les faire cohabiter. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est toute la question qu'on va pouvoir se poser avec Florian Tanner et peut-être Marc Benoît de AssoCoab dans quelques instants. On commence avant ça l'émission en musique. Aujourd'hui, on va écouter La rue qui est à nous avec Yolande Moreau, qui nous chante un titre intitulé La bête. Nous sommes ensemble sur Calade. Il est 12h15. Merci d'être avec nous.
Il n'y a pas que dans le Gévaudan qu'on a de grandes dents taillées comme du silex. La bête. La bête de chez nous avait une faim de loup qu'aurait gobé un T-Rex. La bête faisait de sa tanière une vraie garçonnière pour soigner sa pervexe. La tête, toutes sortes de migraines, les crises de la quarantaine, les bobos du cortex. Brave bête.
Nos épouses convaincues lui sautèrent toutes dessus. Paraît que c'est un réflexe.
Tout bête. Un penchant naturel pour le surnaturel. Avec une rime en ex.
Parfaite. Ce n'est pas une référence.
La première dame de France.
Trône parmi ses ex.
Pouette, pouette.
Au nom de la République
et de l'ordre public,
on l'a mise à l'index.
La bête.
On l'a mise en cabane, sans une bonne femme.
Rien que du subutex, pauvre bête.
Bien qu'elle reçut chaque jour
1000 lettres d'amour, des photos, des kleenex,
des miettes. Elle ne tint pas le coup.
Pris les jambes à son cou,
son accent circonflexe sur la tête. La bête s'est fait la belle et partie avec elle. À cheval sur son soleil, c'est à la conquête de l'Ouest.
C'était La rue qui est à nous et Yolande Moreau avec La bête.
Ensemble sur Calade.
Allez avec nous en studio aujourd'hui, Florian Tanner, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et merci de nous accueillir ici.
Alors vous êtes présidente de l'AssoCoab, de AssoCoab.
Oui, tout à fait, donc une jeune association.
Oui, jeune association, ça a été créé quand?
En avril en fait.
En avril dernier.
Suite à des mois et des mois de travail de terrain et qui nous ont permis en fait de considérer sérieusement la présence de grands carnivores sauvages.
Ouais.
on a décidé à ce moment-là en fait, de créer une structure justement pour travailler sur le suivi faunistique des grands carnivores sauvages et aussi l'accompagnement des éleveurs. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on monte un système d'alerte. Donc ouais. Quand on commence à collecter beaucoup d'indices sur un secteur, on prévient, on alerte les éleveurs du secteur pour travailler avec eux sur l'anticipation.
D'accord. Et donc, même si l'association est jeune, ça fait un moment que vous travaillez sur ce
Exactement.
Sujet-là.
Et
que,
voilà. On n'est pas débarqué, sur le sujet
Très
en
bien.
Avril.
Donc, l'objectif, c'est la cohabitation entre les éleveurs et les carnivores sauvages. On parle de quoi quand on parle de carnivores sauvages ?
Alors, nous, on travaille particulièrement sur le suivi, donc comme on dit, grand carnivore sauvage, c'est-à-dire loup et lynx.
Ouais, parce qu'une belette, c'est un carnivore sauvage.
C'est un carnivore sauvage, mais ce n'est pas un grand carnivore
voilà,
sauvage.
C'est pas pareil.
Donc voilà la différence. Donc voilà, nous, on suit particulièrement ces deux espèces. Après, on suit aussi d'autres petits carnivores, comme le chat forestier.
Ouais.
Aussi le renard, voilà, on apprend tout un tas de choses sur la faune sauvage et on ne peut pas voilà, mettre pour autant les autres espèces de côté, mais c'est vrai que le plus gros de nos travail est quand même sur loup et lynx.
Et quand on parle de faune sauvage, je ne sais pas, moi ça m'évoque des forêts lointaines où il y aurait des bêtes effrayantes. En fait, on parle du Beaujolais et des bois à côté de chez nous et il y a une faune vivante là-dedans.
Oui, en fait, ça a été un peu... je ne veux pas dire qu'on nous a pris un peu pour des faux débuts, mais pas loin. C'est vrai que la plupart des gens, quand on leur parle loup ou lynx, ils s'imaginent les Alpes, des territoires lointains.
Lointains, ouais.
Et en fait, c'est vrai que quand on a commencé à envisager la possibilité de la présence de ces espèces sur le département, au début, c'est vrai qu'on... On nous riait un petit peu au nez
ouais.
et au final, ben, les indices s'accumulant, les preuves s'accumulant, jusqu'à ce jour où on a enfin eu le cliché
ouais.
qui nous a permis de vraiment confirmer tout ce qu'on avait fait en amont pendant plusieurs mois.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça a été un peu pour nous la récompense et aussi de se dire en effet on était bien sur la bonne piste.
Ouais.
Maintenant qu'on sait qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on fait de ces informations-là ?
Comment on réagit ? Ouais.
Comment on réagit ? Et c'est un petit peu, ça a été un petit peu tout le questionnement. Nous, le but, c'était pas seulement dire on les suit, on sait qu'ils sont là, mais de prendre en charge aussi toutes les problématiques du retour du loup sur un territoire, notamment face au monde de l'élevage.
Ouais.
Donc, vous aviez reçu Eco & Co, Laurent et Kelly. Donc, on travaille beaucoup avec eux. C'est un peu un...
Des bergers, ouais.
C'est un peu un laboratoire.
D'accord.
Parce qu'en fait, ce sont vraiment ce sont deux personnes qui sont dans une super dynamique, qui ont une approche de leur travail qui est fabuleuse et aussi du monde de l'élevage avec la faune sauvage. En fait, eux, d'eux-mêmes, la cohabitation, pour eux, n'a pas semblé impossible.
D'accord.
Donc, on a pu mettre en pratique tout de suite. Donc, quand on a eu, par exemple, la photo du loup, c'était non loin des bêtes de Laurent et Kelly.
D'accord.
Donc, on l'a alerté tout de suite.
Très bien.
Tout de suite, pour mettre en place, en fait, tout un tas de moyens de protection pour protéger ses troupeaux.
Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du loup, justement. Le loup, il a une réputation quand on est petit, on nous lit des contes pour enfants dans lesquels le loup, c'est le méchant. Quand on grandit, il apparaît dans les films, le loup. Il y a une mauvaise éducation sur le loup et ce qu'il est. Et c'est peut-être ça qui fait aujourd'hui qu'il est très rare, c'est qu'il est chassé par l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez ?
En fait, on a un passif avec le loup assez lourd. Bon, c'est pas non plus ma spécialité de revenir sur cette période-là de l'histoire, mais il y a deux choses qui semblent se dégager des dernières recherches qui ont eu lieu. C'est déjà, le nombre de loups était beaucoup plus important. On avait vraiment... je dirais pas un chiffre parce que ça serait peut-être me tromper, mais la population par rapport à celle actuelle n'était pas du tout la même. On avait beaucoup plus de loups,
ouais.
d'individus, mais aussi la taille et le gabarit n'étaient pas les mêmes.
D'accord.
Voilà, donc on était plus sur l'espèce et aujourd'hui on est sur une sous-espèce. Entre les deux animaux, il y a quand même pas mal de kilos d'écart.
Ouais.
Donc,
on a des petits loups maintenant dans le...
En gros, on a des moyens loups.
Très bien.
Donc c'est vrai qu'on a aussi subi des épisodes de rage.
Ouais.
Et qui malheureusement ont bien sûr créé des...
La mauvaise réputation.
La mauvaise réputation. Et oui, il y a certainement eu en effet des cas de prédation de loups sur des individus. individu. Un loup enragé, c'est comme un chien enragé. Voilà. Le risque reste important en cas de rage. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout. On n'en est plus là. D'autant plus qu'il y a eu une grosse période avant son éradication où on avait beaucoup restreint les espaces forestiers.
Ouais.
Aujourd'hui, depuis une bonne centaine d'années, il y a eu une bonne reconstitution, notamment dans le Beaujolais, de forêts, et qui a eu un impact aussi sur la biodiversité, et qui a aussi favorisé l'installation aujourd'hui de grands carnivores. Enfin, qui pourrait en tout cas favoriser l'installation de ces espèces-là.
Et oui, c'est vrai que s'il n'a plus d'endroits où vivre, qu'il n'y a plus de forêt, ça explique aussi beaucoup la réduction de la population.
Et oui, plus on empiète aussi sur son territoire, plus forcément on augmente aussi les risques de...
Que lui, il vienne... il puisse venir. Quand on... Votre travail, il est... Il y a deux facettes, j'ai l'impression. Il y a un côté sauvage où il faut étudier, comprendre, savoir ce qui se passe. Et il y a le côté humain aussi, il faut rencontrer les éleveurs, etc.
En fait, c'est ça. On s'est aperçu que tout l'enjeu du sujet loup, quand il arrive sur un territoire, c'est souvent ce qu'on s'est aperçu. Or, je parle en dehors de l'arc alpin. Les gens ne sont psychologiquement pas préparés. Ça fait 100 ans qu'il n'y a plus de loup ici.
Ouais.
Donc, ça fait 100 ans qu'on a appris à vivre sans le loup.
Ouais.
Et la plupart du temps, les gens se disent « Mais non, c'est pas possible. Ici, il ne peut pas y avoir de loup ou de lynx.
Ouais. »
Et tout l'enjeu va être en fait de cibler le territoire, donc maîtriser notre territoire et de comprendre exactement l'occupation de ce territoire-là par les grands carnivores sauvages.
Ouais.
Donc c'est tout un travail de recherche, vraiment de recherche de terrain, de recherche. C'est vraiment un travail, je trouve, assez titanesque, mais très passionnant.
Comment vous faites ce travail, du coup, concrètement ? C'est aller sur le terrain ?
Oui, c'est ça. C'est des heures et des heures dans les bois, à la recherche d'indices de présence. Donc, ça va être collecte d'excréments, collecte potentiellement de poils, analyse de pistes d'empreintes. S'il y a des carcasses aussi, de proies sauvages aussi, ça peut être ce type de recherche-là. Après, on fait tout un autre travail aussi, vraiment de témoignages. On fait une collecte de témoignages de terrain où là, quand on commence à collecter des indices sur un secteur en particulier, on va essayer de faire en gros un peu comme du porte-à-porte et d'aller rencontrer vraiment les gens au plus près de
qui habitent et qui...
Est-ce que vous auriez vu, entendu quelque chose de particulier? Est-ce qu'on vous a parlé d'une histoire? Si c'est un éleveur, comme c'est le cas de Laurent, on est allé le rencontrer pour voir avec lui s'il n'y avait pas de son côté un petit historique. Donc c'est tout un travail de collecte de données qui est vraiment un travail de fourmi de longue haleine, mais qui nous permet de vraiment d'acquérir une meilleure compréhension des choses. Et après, par la suite, donc, comme on le disait, il y a tout ce travail avec les éleveurs, les rencontrer. Souvent, ne serait-ce que les rencontrer, discuter avec eux de tout ça, on va peut-être faire ressurgir des choses que, ah bah oui, c'est vrai, ça me fait penser, il m'est arrivé ça, mais je n'ai pas prêté attention. Et au final, c'est toutes des petites informations qui vont beaucoup nous aider sur le terrain après.
D'accord.
Et les préparer aussi, c'est les accompagner. Donc nous, à force, c'est vrai, de collecter des informations sur le comportement, sur la biologie du loup, ça nous permet d'être beaucoup plus précis sur l'accompagnement et la protection des troupeaux, en fait. Il y a une saisonnalité aussi des attaques, des choses comme ça. Donc on essaye d'être précis sur qui on accompagne à quel moment, selon les indices qui vont ressortir.
Comment ils réagissent, les éleveurs, quand on leur dit il y a un prédateur pas loin de chez vous, ou il y a un risque pour votre troupeau? Comment est-ce qu'on fait pour pas qu'il panique? Et j'imagine qu'il faut lui expliquer les bons gestes à avoir.
Oui, et on s'est aperçu que c'est tout l'enjeu et l'intérêt de faire le travail avant qu'on ait des cas vraiment de prédation. Les réactions sont souvent de deux types. Je vais schématiser de façon assez binaire, mais dans la réalité, c'est plus nuancé que ça. Mais très souvent, on a soit ceux qui sont très contents de voir revenir en fait, des grands carnivores sauvages et qui veulent choper le train en route, de la cohabitation, des moyens de protection, et là, qui jouent le jeu et avec qui on va pouvoir tester plein de choses très intéressantes sur le terrain. Comme, je vais vous reparler de Laurent Kelly, mais c'est vrai qu'on a même équipé son chien de protection de GPS, comprendre ses mouvements quand le loup est dans le secteur, etc. Donc ça nous permet d'avoir une vraie compréhension et aussi de faire toutes ces données-là qu'on collecte, on peut en faire profiter aussi d'autres éleveurs.
Ouais.
Et donc après, bah, y a ceux où forcément c'est pas aussi facile d'accepter la présence. Après, il faut aussi reconnaître une chose, c'est que quand vous arrivez sur une scène d'attaque, c'est très souvent très violent. Et quand on a élevé ses bêtes, qu'on aime ses bêtes, et qu'on se retrouve avec des bêtes pas toujours mortes, et que des fois il faut achever ou faire euthanasier, c'est dur aussi à vivre. Donc nous, tout notre enjeu, c'est d'éviter de vivre ce genre de scène. On ne dit pas que le risque zéro, on ne vous dira pas que ça sera plus possible d'avoir des risques d'attaque.
Ouais.
Mais on sait qu'on peut réduire énormément par des fois des choses toutes simples. Et c'est vraiment ce que l'on cherche à démocratiser dans le département pour qu'on arrive à faire face en cas de souci. Parce qu'après, ce n'est pas parce qu'il y a du loup que forcément les troupeaux vont tous être touchés. Voilà, tous les loups ne s'attaquent pas forcément aux troupeaux. Hein, y a ça aussi.
C'est quoi le plus simple ? C'est le côté chercher des infos sur le loup ou le côté éduquer les éleveurs c'est deux choses totalement différentes.
Les deux ont leur complexité parce qu'on se rend compte que travailler sur le loup, c'est ne pas faire de généralité déjà.
Ouais.
C'est faire du cas par cas. Chaque petit massif du Beaujolais va avoir ses spécificités à comprendre. Chaque élevage aussi va avoir ses spécificités, ses contraintes aussi. Il faut pouvoir aussi entendre et adapter certaines choses par rapport aussi aux contraintes des éleveurs. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment du cas par cas. On prend du temps à les accompagner, à les suivre, à les conseiller si besoin. Puis même leur retour aussi, parce que certains nous font des retours sur plein de choses. Et en fait, c'est cette dynamique qui permet de faire progresser mais vraiment les protections et aussi la connaissance qu'on a du loup, l'interaction aussi entre brebis en gros et loup, et tout ça c'est très très intéressant et passionnant.
Assocoab, c'est par définition une association. Comment est-ce que vous fonctionnez pour faire tout ce travail? Il y a une équipe de bénévoles, comment ça marche?
Alors, sur le terrain, on n'est pas nombreux.
Ouais.
C'est un petit peu, voilà, c'est vrai que le nombre de bras et de jambes pour prospecter, ce qu'on appelle prospecter, est assez faible. Donc, ça nous demande beaucoup de temps déjà de maîtriser le territoire. Hein, on le fait, on est deux à faire ce travail-là sur l'ensemble du département.
Et on peut venir vous aider si on a on a des auditeurs qui...
Alors après, on est ouvert. Hein, on est ouvert à...
contact avec vous.
Et... Voilà, donc après, c'est vrai que c'est un recrutement assez particulier parce que c'est quand même un dossier très sensible aussi.
Ouais.
Ça va demander du temps de formation.
Bien sûr.
Voilà, parce qu'il faut apprendre à reconnaître les empreintes.
Et alors, comment on peut vous aider si on ne devient pas bénévole ?
Alors, il y a une chose qui peut être très importante, c'est parler de nous.
Ouais.
Parler de nous, avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, c'est-à-dire est-ce que je vois quelque chose, est-ce que je vais voir quelque chose d'étrange. Ça peut être le soir, je rentre tard du travail, il y a un animal qui m'a coupé la route, je ne sais pas trop ce que c'est.
Ouais.
Loup et lynx, hein, bien sûr, parce qu'on travaille aussi bien sur
le lynx. Oui, on a beaucoup parlé du loup, mais...
Donc voilà, ça peut être aussi... voilà, il y a un éleveur que vous connaissez qui a un troupeau, peut-être lui parler de ce que l'on fait s'il n'en a pas entendu parler, s'il est intéressé. Il y a plein de façons en fait de contribuer à tout ça.
Et on peut rentrer en contact facilement avec vous, avec votre adresse mail,
assocoab@gmail.com. Oui, exactement. Donc on a une adresse email, donc c'est assocoab@gmail.com. Un site internet, donc si jamais on peut taper assocoab et nous trouver facilement sur Google et on a un formulaire de contact. Après, ça peut être, on a une page Facebook. Enfin, oui, on a une petite page Facebook et
on peut vous suivre.
Voilà, exactement.
Très bien. Vous êtes en lien avec d'autres associations dans le Beaujolais, le Rhône. Il y a d'autres associations qui s'intéressent à la faune sauvage.
Oui, exactement. En fait, c'est un petit peu ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas seul à faire ça et on travaille avec des copains qui font le même job que nous dans l'Ain, notamment la BASF, qui fait un travail super aussi.
Ouais.
Et après, on est en contact avec le pôle des grands prédateurs, entre autres, et plein d'autres acteurs du sujet loup et lynx, en fait.
Ouais.
Donc, en fait, le but, c'est de mutualiser un petit peu nos compétences, les moyens humains pour, en fait, aller très vite sur pour aller très, très vite sur la mise en place et la réactivité en cas de prédation.
On entend de plus en plus de nouvelles assez négatives sur l'état de la planète, l'écologie, etc. On peut être optimiste pour la faune sauvage, notamment en France et sur notre territoire, pour que le loup puisse s'installer durablement, et le loup, le lynx, ces animaux-là, puissent s'installer durablement et qu'ils aient un avenir dans le Beaujolais ?
Alors moi déjà, je suis une éternelle optimiste et en fait, la nature a une capacité à se régénérer à une vitesse qui est très impressionnante.
Ouais.
Si aujourd'hui, je vous parle du sujet lynx, vous pensez que ça fait combien de temps qu'on aurait vu du lynx ici ?
Je pense qu'on en voit encore quelques-uns de temps en temps, non ?
Ça fait depuis les années 90 qu'on a des témoignages.
Ouais, d'accord.
Début des années 90.
Avant, il n'y en avait pas.
Peut-être, mais en tout cas, on n'a pas l'historique pour le savoir. Donc nous, ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où on laisse des zones, on va dire, à la nature,
on n'y touche pas.
Ouais, c'est pas que non plus qu'on ne peut pas y toucher, mais à partir du moment qu'on prend conscience qu'il y a certaines zones où la nature doit pouvoir aussi exister et vivre, et elle se régénère très très vite.
Ouais.
Elle a une capacité, voilà. Donc moi, je suis assez optimiste là-dessus. J'ai pas d'inquiétude sur sa force, sur la force du vivant à vraiment aller de l'avant. Peut-être plus sur la capacité de l'humain à prendre conscience en fait.
De ça et
voilà.
De ce phénomène-là. Très bien. Bon, on peut être optimiste alors.
Exactement.
Et ben, ça fait du bien. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Mais de rien. Merci à vous.
Floriane Tanner. Donc je rappelle qu'on retrouve toutes les infos sur le site assocoab.com. Et puis qu'on peut vous contacter par mail à assocoab@gmail.com.
Tout à fait.
À très bientôt, au plaisir.
Merci, au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, on va faire une petite pause musicale avant de continuer. On écoute les Brigitte avec le titre La vengeance d'une louve.
Toi la nymphette, toi la vedette, toi les gambettes, à quoi tu joues avec mon mec? Je vais te faire la peau si tu traînes trop autour du père de mes petits coups. Hey, toi la patronne, touche pas mon homme ou je te dégomme, tu vas goûter à mes torgnoles. Je suis plus costaud qu'un petit oiseau, j'ai séché l'eau de mes maudits sanglots. Toi le mystère, moi sa bergère, la régulière. Croqueuse de couilles au cœur de pierre, va faire des nouilles chez les célibataires. Hey, il est facile, il est fragile, c'est une victime, un superman à 3 centimes. Je suis pas tu, ce fils de pute. Juste après toi, je m'occuperai de son cas. Cherche, tu me trouves.
suite sur Calade avec la vengeance d'une louve.
C'est un bingo.
Ensemble sur Calade.
Jeu de société.
C'est comme ça qu'on dit c'est un bingo.
On dit juste bingo.
Allez, pour nous parler de jeux de société, c'est l'équipe du Loranac qui est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va, merci.
Et toi ?
Bon, ben, ça va bien, je suis content de vous retrouver. Vous allez nous présenter quoi comme jeu aujourd'hui ? Il y a une thématique ?
Bon, une thématique plutôt nouveauté au Lorana.
D'accord.
C'est des jeux qu'on vient de rentrer chez nous.
Très bien. Alors, on fait la petite liste ?
Eh bien, on a un premier jeu qui s'appelle Mot pour mot. Un deuxième, enfin deux et trois jeux, puisque c'est deux petits jeux qui s'appellent Bandido et Bandida. Et le dernier jeu qui s'appelle Nicodemus.
Très bien.
Nicodemus,
par...
je sais pas.
Par quoi on commence alors ? On commence par mot pour mot ?
Allez, allons-y. On commence par mot pour mot. Alors, mot pour mot, c'est un jeu d'ambiance en équipe. Il peut se jouer de 2 à 12. Ouais. Pour 8 ans et plus, et qui dure 20 minutes. Donc on a un plateau de jeu avec des jetons qui sont en fait des consonnes. Et on a des cartes thèmes avec différents thèmes. Je peux vous en citer 2-3, par exemple. On a comme thème un cocktail, un animal communément gardé, comme animal domestique, etc. On se met en 2 équipes et on trouve un mot en rapport avec ce thème. Il faut que le mot soit assez long et assez consistant pour pouvoir remporter des points. Donc on épelle le mot en déplaçant sur le plateau les différentes consonnes.
D'accord.
Sur le plateau, il y a 1, 2, 3, 5 cases. Si jamais on a des doubles lettres, on déplace notre pion consonne, oui, de colonnes. Et il faut essayer de faire sortir les lettres de nos adversaires. Donc comme ça, chacun notre tour... En fonction du thème, on va donner un mot et les lettres vont bouger sur le plateau de jeu. Et à partir du moment où les lettres seront sorties, on va gagner des points. Et la première équipe qui aura réussi à gagner 5 points aura gagné la partie.
D'accord.
Voilà.
Donc on joue avec les mots
On joue avec les mots, avec les lettres qui deviennent des pions, du coup, qui se déplacent sur le plateau de jeu. Et puis les thèmes, c'est un peu... c'est hyper vague, quoi.
Ouais.
Type de thème.
Très bien, mot pour mot, alors.
Mot pour mot.
Ça a l'air rigolo. On continue, Bandida et Bandido.
C'est ça, Bandida et Bandido. Alors, ce ne sont pas forcément des nouveautés, mais nous, on vient juste d'ouvrir Bandida. Donc, ce sont des petits jeux qui se jouent de 1 à 4 joueurs. À partir de 6 ans et qui durent environ 15 minutes. Ce sont des jeux de cartes coopératifs.
Ouais.
Et en fait, Bandido et Bandida, ce sont des prisonniers. Ils sont en prison et ils vont s'échapper. Ils vont creuser un tunnel sous la prison. Et nous, on va devoir les en empêcher. Et donc, on va poser des cartes pour essayer de les bloquer. Mais au fur et à mesure, on risque aussi d'élargir leur tunnel. Il y a plusieurs tunnels qui vont se creuser à la manière d'un labyrinthe. Et nous, on va devoir essayer tous ensemble de bloquer le Bandido ou Bandida. Et on va jouer donc contre le jeu, contre Bandido ou Bandida. Et il va falloir le bloquer avant que toutes les cartes soient épuisées.
D'accord. Et c'est en coopération.
C'est ça, en coopération. Super. Sachant que l'un se joue sans l'autre et on peut jouer avec les deux ou on peut réunir les amoureux un petit peu à la Bonnie and Clyde.
D'accord.
Et du coup, il faut relier Bandido et Bandida et les aider à s'échapper. Et sachant
et là, du coup, on est du côté de Bandido et Bandida.
Ouais.
Ah,
on peut faire ça. C'est ce que j'allais dire parce que sachant que dans Bandida, on peut les aider à s'échapper, pas dans Bandido.
D'accord.
Parce que dans Bandida, il y a une carte avec une échelle. Et donc, si on tombe sur l'échelle, on peut l'aider à s'échapper du jeu. On a aussi plein de petites actions avec des objets qui peuvent nous aider ou au contraire nous embêter. Ça rajoute du piment dans le jeu.
Très bien. Et c'est des toutes petites boîtes, ça a l'air d'être...
C'est ça. C'est des petites boîtes un peu comme des boîtes d'allumettes. Enfin,
ouais.
C'est
super pratique pour...
Et très intéressant à jouer.
Pour jouer un peu n'importe où.
Parce que c'est pas facile pour d'y arriver. Enfin...
D'accord, c'est un défi, chaque partie, on n'est pas sûr de gagner.
Non, enfin, non, pas du tout. Ouais.
Très bien. Et bien, on continue. Nicodemus. Alors, lui, on ne sait pas comment on le dit.
Bah, Nicodemus, tout simplement. Et c'est la version pour deux joueurs de Imaginarium.
D'accord.
Donc, c'est un, voilà, pour deux, donc, qui vont des parties de 45 minutes à partir de 14 ans. L'histoire d'Imaginarium, il y avait Nicodemus qui gérait la manufacture des rêves, et là, il prend sa retraite. Et donc, deux assistants vont devoir se battre pour prendre sa place. Donc, en fait, les deux joueurs prennent le rôle de l'assistant. C'est un jeu en fait qui fonctionne avec des cartes, donc on a 5 cartes en main, et quand on va les jouer sur un plateau qui s'appelle le bric-à-brac, et quand on pose une carte, on déclenche son effet. Donc il y a 3 effets possibles, soit prendre du charbonium, c'est des ressources, soit prendre des ressources spécifiques comme le cuivre, le bois ou le cristal, ou d'appliquer son effet. Parce que du coup, les cartes ont des effets, soit on peut attaquer l'autre joueur en lui volant des cartes, en lui volant des ressources, quand on pose la carte, soit on peut faire des combos en fonction des cartes qui ont déjà été posées sur le plateau, et donc du coup, on peut encore prendre plus de ressources. Ensuite, le but du jeu, c'est de réaliser des projets. Les projets sont sur le côté du plateau, et en fonction donc des projets qu'on réalise, on va marquer des points de victoire.
D'accord.
Et pour réaliser ces projets, il faut du coup réparer une machine qui a été posée par les joueurs sur le plateau. Et donc, du coup, quand on répare la machine, on gagne des points de victoire et des points de victoire par rapport aux projets qui sont réussis.
D'accord.
Voilà. Donc, le premier joueur à atteindre 20 points de victoire a gagné la partie, tout simplement.
Donc, faut gérer la petite bagarre avec l'adversaire et en même temps réussir à fabriquer ses projets.
Et donc, pour embêter l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire? En posant des cartes, on peut supprimer d'autres machines qui auraient permis des projets bientôt réalisés par l'adversaire ou voler des ressources qui sont plutôt le nerf de la guerre de ce jeu. Quoi. Voilà.
Okay. Les jeux, c'est bien les jeux à deux de temps en temps d'avoir un truc vraiment l'un contre l'autre pour pouvoir jouer.
Et celui-là en plus, c'est pas un petit jeu à deux quoi. Les parties durent bien 30 minutes, 45 minutes si vraiment on veut avoir le dernier mot quoi. Parce que on peut vraiment se battre et s'embêter jusqu'au bout pour pas que l'autre y réalise le projet. Ouais. Mais par contre, des fois, on perd aussi notre temps à vouloir bloquer l'autre, et donc du coup si on laisse passer des fois une carte, et hop, c'est la carte de trop.
Et un truc que je peux reprocher à certains jeux à deux, c'est que quand il y en a un qui commence à gagner, l'autre il est foutu et il rame pour rattraper.
Testé effectivement sur la première partie, ça arrivait.
Ouais.
Sur la deuxième en fait non, parce que du coup comme on commence à connaître un peu plus la mécanique du jeu, du coup on prend ses précautions,
on
embête plutôt l'autre adversaire en fait. On n'est pas obligé d'embêter tout de suite, on peut faire ses petites machines dans son coin, faire ses petites ressources, mais si on laisse l'autre prendre le devant, oui, effectivement, si l'écart se creuse trop vite, c'est foutu.
Très bien, Nicodémus, alors ça a l'air chouette. Et on avait également Bandida, Bandido et Mot pour Mot.
C'est ça.
Super, bon.
Du coup, on voulait préciser aussi et rappeler que samedi 16, on fait le pot de départ de Philippe, l'ancien gérant de la boutique, donc pas toutes les personnes qui souhaitent venir. On est ouvert ce dimanche, à partir de ce dimanche-là, on est ouvert un dimanche sur deux. Et le dernier dimanche du mois, on fait un brunch. Et le mardi 19, on fait une soirée rose pour elles, pour les filles, pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.
Très bien, pour Octobre Rose.
Pour Octobre Rose, tout à fait.
Et pour terminer aussi, on a des nouveaux horaires. On est ouvert le mardi après-midi maintenant, de 14h à 21h. Voilà.
Allez, pour venir en famille, pourquoi pas?
Bah oui, tout à fait.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Ciao.
Ciao.
Ensemble sur Calade.
On continue en musique. On va écouter Mystery Jet et Laura Marling avec le titre Young Love.
If I only knew your name, I'd
Young Love, titre de Misty Jets et Laura Marling sur Calade.
Ensemble sur Calade, le blues du jeudi.
Il y en a, il faut mieux se faire du blues.
Et allez, aujourd'hui dans le blues du jeudi, du blues rock, puisque c'est moi qui m'y colle et que je ne serais pas capable de vous parler de blues plus classique. On va parler des Black Keys aujourd'hui. On en passe un peu de temps en temps sur Calade et vous les connaissez probablement déjà. Duo américain originaire de l'Ohio, composé du chanteur et guitariste Dan Auerbach et du batteur Patrick Carney, avec un premier album sorti en 2002, The Big Come Up. Il rencontre le succès mondial l'année suivante, en 2003, avec l'album Thick Freakness. Aujourd'hui, ils en sont à 10 albums. Celui qui m'a le plus marqué personnellement, c'est El Camino, sorti en 2011, avec des incontournables comme Lonely Boy, Gold on the Sailing ou Little Black Submarine. Leur son, eh ben, c'est du blues rock très épuré. Batterie, guitare, voix, de la basse, un petit peu, quelques touches de clavier pour étoffer. Mais ça reste très très brut. Ils s'étoffent de plus en plus, ils complexifient de plus en plus leur musique, et en 2021 sort un merveilleux album à nouveau plutôt brut de reprises blues, sauce Black Keys, c'est chouette comme tout. Et je vous propose d'écouter un extrait de cet album Delta Crime. Ça s'appelle Poor Boy, A Long Way From Home. Et c'est une reprise de Booker White. On écoute les Black Keys sur Calade.
Thank you.
les Black Keys sur Calad avec Poor Boy Long Way From Home. Le contrat du blues chaque jeudi est rempli.
Ensemble sur Calad.
Allez, c'est la fin de Ensemble sur Calad. Je vous donne rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro. D'ici là, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radio-calad.fr et en rediffusion demain matin à 10h. D'ici là, d'ici quelques minutes, vous retrouvez à 13h vos pages d'information quotidiennes avec le journal de RFI et le journal de Sylvie Rosier. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calad.